se raconter des histoires, et de bonnes histoires, c'est fertiliser autour de nous la matière qui nous entoure, la matière humaine, un peu comme on dit que les vers de terre, en sillonnant la terre d'un jardin, la rendent plus riche et plus féconde. Alors, c'est plutôt dans cette tradition du conteur oriental, de celui qui, aux questions qu'on lui pose, répond par une histoire qu'il raconte. C'est plutôt à cette tradition que je m'en attache, en étant parfaitement conscient que je suis un homme de l'Ouest. Je suis un peu inquiet de cette émission parce que je n'aime ni parler de moi, ni parler de ce que je fais.
Le Grand Atelier.
Alors de quoi allons-nous parler, je me le demande.
Sur France Inter.
Et si un jour sa vie inspirait un cinéaste ? Le film raconterait l'histoire d'un fils de paysan de l'Hérault, né dans les vignes cultivées par son père, et qui devrait à la Troisième République et à l'école son ascension sociale. Étude de lettres, d'histoire, normal sup, et très vite le désir d'écrire, ou plus précisément l'envie de raconter des histoires. On verrait à l'écran ce personnage rencontrer de grands cinéastes, Tati, Pierre Etex, Buñuel, Godard, Louis Malle, Milos Forman, Jacques Deray. Il deviendrait un scénariste indispensable, auteur et co-auteur de films comme Belle de jour, La piscine, Cyrano de Bergerac, Le tambour, Milou en mai, et aussi un dramaturge compagnon de l'anglais Peter Brook. Le film coûterait cher parce qu'il faudrait que ce conteur voyage dans le monde entier, repousse sans arrêt les frontières et revendique une culture large regardant autant vers l'Asie que vers l'Europe. Au fond, ce qu'il faudrait montrer aux spectateurs, c'est un homme en mouvement, affamé d'histoire, de mythes, de science, de croyances, de poésie. Alors qui pour jouer son rôle ? Pour l'instant, nous n'en sommes pas là parce que le scénario de sa vie est toujours en cours d'écriture. Bonjour Jean-Claude Carrière.
Bonjour.
Ça vous ferait plaisir de voir votre vie à l'écran ?
Non, pas du tout. Absolument pas. Je préfère vivre ma vie que la raconter. Je l'ai fait une fois, j'ai fait un livre sur mon enfance qui s'appelle « Le vin bourru ». Tout le monde me dit « Mais pourquoi tu n'écris pas tes mémoires avec tous les gens que tu as connus ?» Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est les gens que je connaîtrais qui m'intéressent.
Qui pour jouer Carrière et quel réalisateur ? Ça, c'est extrêmement difficile. Vous ne pouvez pas répondre à cette question.
Non, non. D'ailleurs, je ne me la pose pas.
Votre plus grand plaisir dans la vie, c'est d'apprendre ?
C'est une sorte de... Enfin, les gens qui me connaissent disent ça de curiosité. C'est-à-dire que mon regard va de droite à gauche, se pose ici, là, en haut, en bas. Et j'ai été toujours particulièrement attiré par les cultures étrangères. Peut-être parce que je viens d'un tout petit village et d'un tout petit coin de terre où on parlait, j'étais bilingue, on parlait occitan quand j'étais enfant. Et que je vivais dans une vallée entourée de montagnes. Je savais qu'il y avait un monde au-delà de ces montagnes et je rêvais de le connaître. Alors je n'ai pas à me plaindre.
Vous écoutiez des contes le soir à la veillée ?
Non, pas tellement parce que mes parents étaient trop fatigués pour me raconter des histoires. J'avais quelques livres de contes à partir de l'âge de 7-8 ans. Et d'ailleurs, il y avait des contes de l'Inde. Je me souviens, ça a été un de mes tout premiers cadeaux.
Vous savez répondre à cette question qu'on a dû souvent vous poser, pourquoi vous aimez raconter des histoires ?
Parce que j'aime les écouter. Parce que l'histoire est la partie de notre vie que nous ne vivons pas. C'est-à-dire que nous pourrions vivre, que nous pourrions rêver de vivre. C'est immense par rapport à notre très étroite vie, qui ne dure que quelques dizaines d'années. Le monde des histoires est immense. Il s'étend depuis l'Antiquité jusque, peut-être, on le dira plus tard, jusqu'à d'autres étoiles. Mais c'est pour ça que je n'arrête pas, chaque fois que j'ai voyagé, que j'ai rencontré des gens intéressants dans tel ou tel pays, je demandais toujours, raconte-moi les trois plus belles histoires que tu connaisses. J'en ai fait d'ailleurs plusieurs livres.
Oui, c'est vrai, parce qu'il y a chez vous un conteur, ce plaisir de raconter, et puis il y a aussi celui qui laisse des traces. Vous avez écrit énormément de livres, Jean-Claude Carrière.
Oui, beaucoup de livres, beaucoup de, encore plus de scénarios, quelques pièces de théâtre aussi. J'ai travaillé, vous parliez de Peter Brook tout à l'heure, qui a été mon plus long compagnon de travail, qui est toujours là d'ailleurs, avec qui je dîne la semaine prochaine. Il a 94 ans, le jour du printemps. Et je le salue.
Vous êtes beaucoup plus jeune que lui.
Oui, beaucoup plus jeune que lui.
Alors bienvenue
et
dans...
on a travaillé 37 ans ensemble.
On retient entre autres la conférence des oiseaux, l'homme qui, et puis bien sûr le Mahabharata, qui vous a pris des années. Hein.
Des années, oui.
Bienvenue dans votre grand atelier.
Mais qui me vaut d'être citoyen d'honneur de l'Inde.
Et c'est pas mal ça.
Ah oui, pas mal.
Ça fait plaisir aux petits garçons, fils de paysans que
oui,
vous étiez.
Exactement.
Et qui écoutaient et lisaient des contes indiens. On va parler de vous dans votre grand atelier, puis aussi de celles et ceux que vous avez invités à votre table. Par exemple, un Afghan de Paris, l'écrivain Atik Raimi, il fait partie des invités que vous souhaitiez.
C'est pas un Afghan de Paris. C'est un Parisien de Kaboul. C'est un peu différent. Hein, tu es d'accord hein,
Tout à fait. Ça me va très très bien. Bonjour Atik Raimi.
Bonjour. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai travaillé. Nous avons écrit ensemble Singh et Sabour, enfin, un film qu'il a fait avec Golshifteh Farahani. Et nous nous voyons souvent, nous avons d'autres projets, projets littéraires et cinématographiques surtout. C'est un personnage qui correspond exactement à ce que je cherchais. C'est-à-dire quelqu'un qui vient d'un pays comme l'Afghanistan, qui était autrefois la perle de l'Empire perse, qui est devenu indépendant, qui a subi toutes les invasions communistes, de talibans, comme vous pouvez imaginer, tous les drames, tous les malheurs, et qui reste une fontaine d'histoire. Et c'est aussi, j'aime beaucoup l'Afghanistan, vous savez pourquoi? Parce que c'est le seul pays au monde où il n'y a pas de chemin de fer. Et c'est très particulier quand on dit on va à la gare, c'est la gare des autobus. Voilà, je suis heureux qu'il soit là aujourd'hui. Je te salue, Atik.
Merci.
Bienvenue à vous aussi, Atik.
Mais j'ai pas pris le train pour venir jusqu'ici.
Vous avez pris vos pieds. Il est arrivé avec ses chaussures et son bonnet, Atik. On va écouter une chanson. Elle est écrite, co-écrite avec Comte, Henri Comte.
Avec Kant, j'avais compris Kant.
Non, vous n'avez pas connu Kant. Non. Vous n'avez pas connu Kant. Vous avez connu d'autres philosophes, mais pas Kant.
J'aime beaucoup les derniers mots de Kant. Vous les connaissez?
Dites-les-nous.
C'est suffisant.
On a encore deux heures, vous
savez.
Jacqueline François a donc chanté du Jean-Claude Carrière et du Henri Comte, c'était Mon oncle.
Qu'il est bon le temps des vagabondages, des courses, des cris, des terrains sans loi, qu'il est doux le jeu des petits voyages, quand mon oncle dit viens donc avec moi, ah qu'il fait bon. Près de mon oncle, on va faire un petit tour. Parmi les rires des faubourgs, on va dans les sentiers des écoliers. Moi je prends dans sa grande main la clé du bon temps et la clé des champs. Je partage avec les copains un coin de printemps. On déniche des quartiers lointains remplis de jeux d'enfants et plein de rêves blancs. On se perd dans le chantier voisin avec le régiment des gardements. Ah, qu'il fait bon près de mon oncle, la bride sur le cou, le cœur battant, les cheveux fous, deux gosses émerveillés vagabondent tout le long des sentiers des écoliers. Mais nous n'irons plus tirer les sonnettes, mon oncle est parti emportant mes joies, et le souvenir tourne dans ma tête comme le manège des autres fois qu'il faisait bon. Près de mon oncle, je poursuis le chemin où nous allions main dans la main. Je poursuis le chemin des galopins. J'ai gardé comme une chanson la belle saison des lointains jeudis. J'ai perdu comme une chanson mon meilleur ami. Balançoire et jeu de saute mouton, bataille de la rue, qu'êtes-vous devenus? Où sont-ils dans la vieille maison, les rires familiers, presque oubliés? N'attachez pas d'importance à la trace des pas du promeneur qui n'est plus là. Ce n'était qu'un passant du dimanche. Ce n'était qu'un passant près d'un enfant.
Si vous voulez, moi je crois que l'effet visuel qui est basé sur la pantomime, qui est certainement le moyen d'expression le plus ancien qui existe, fait que, en fait, on ne se rappelle jamais d'une bonne phrase dans un film. Même si cette phrase est exceptionnelle, on ne se rappelle pas d'une phrase d'un film de Sacha Guitry. Par contre, on se rappelle de la danse des petits pains de Chaplin.
Jacques Tati chez Chancel sur Inter en 1977, l'auteur des vacances de Monsieur Hulot, de Mon Oncle, il croyait plus au souvenir chez le spectateur d'un geste ou d'une pantomime qu'au souvenir d'un bon mot. Comment réagit le scénariste que vous êtes ?
Il était d'abord le meilleur mime que j'ai jamais connu. Parce qu'avec très très peu de gestes, il évoquait toute une ville. La chanson qu'on a entendue, il m'avait envoyé l'écrire avec Boris Vian, avec qui j'ai travaillé. Mais la chanson n'avait plus rien à voir avec le film ou avec ce... Alors on a arrêté, on est resté copains avec Boris, mais il a fallu aller faire quelque chose de plus sage. Tati avait un corps apparemment maladroit, grand, ça un peu dégingandé, un peu... Mais la précision de ses gestes est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et Pierre Etex, qui était lui aussi un très bon mime, qui était son assistant et avec qui j'ai commencé, disait exactement la même chose. Je vais avec Tati un jour au festival de Los Angeles. Il venait, lui, de New York. On était tous les deux invités avec Jean-Claude Brialy, qui l'imitait très bien.
Ah bon ?
Tati imitant Brialy, ça c'était... Et il me raconte que le samedi soir, à New York, il a eu un accident de taxi. Et il me raconte ça en se mettant à la place de la standardiste de l'hôpital de New York, un samedi soir surchargé au téléphone, en train de se mettre du rouge sur les ongles et de dire à son boyfriend « I'm very busy tonight et je crois pas que je pourrais venir ». Et plein de civières et de brancards dans le... Et j'ai vu tout ça. Et il était, lui, sur une de ces civières. Quand je vous le raconte, j'ai absolument l'impression que j'y étais. Oui, c'est ça la force du mime.
Il était scénariste avec les gestes.
J'aurais vu ça en image filmée, je l'aurais peut-être oublié. Mmh. C'est ça qui est très fort dans le corps humain quand il se met à dire quelque chose.
Alors on sait dans votre biographie que vous rencontrez le clown, le réalisateur, l'affichiste, le graveur Pierre Etex chez Tati, mais je voudrais savoir comment vous rencontrez Tati. Qu'est-ce qui fait que le normalien et l'ancien fils de paysan et viticulteur...
J'étais anormal et donc et j'avais écrit un livre, un roman, un premier roman. Mmh. Et Robert Laffont, mon éditeur, avait un contrat avec Tati pour tirer deux films, faire ce qu'on appelle de la novélisation, des vacances de Monsieur Hulot et de Mon Oncle, qui était en cours de tournage. Alors j'ai passé un concours. On m'a demandé, il y avait plusieurs candidats, d'écrire un chapitre des vacances de Monsieur Hulot, comme livre. Ce qui est un film très visuel, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Et j'ai pris le parti, j'ai eu cette idée de prendre un des personnages secondaires du film, le petit vieux qui est tout le temps avec sa femme, un coquillage, ou un rocher, un bateau là-bas, et de raconter ça à la première personne, comme si cette année-là, M. Hulot avait métamorphosé ses vacances. Et c'est ça qui a plu à Tati. Il a dit, ça c'est un autre point de vue que le point de vue du cinéma, c'est tout à fait un livre. Et à partir de là, j'ai fait Mon Oncle ensuite, et puis j'ai rencontré Etex et c'était perdu.
Ce que vous aimez dans la vie, c'est trouver des compagnons et des compagnes. J'ai toujours l'impression qu'avec vous, une rencontre, c'est un voyage au long cours. Etex, combien de films co-écrit avec lui?
On a travaillé pendant 8 ans au cinéma et par la suite, on ne s'est jamais quitté. On a fait des livres ensemble, on a fait des numéros de musical, on a fait un peu tout. Vous savez qu'Etex était capable de se transformer en chinois, mais carrément avec des dents et tout et des nattes. Il l'a fait plusieurs fois, même au Club 13 de Lelouch, et de faire un numéro de magie. Il était un excellent prestidigitateur et personne ne l'a reconnu.
Je voudrais qu'on écoute Pierre Etex parler de vous. Il évoque un film que vous avez écrit avec lui qui est Yo-Yo. C'est quoi Yo-Yo ?
Yo-Yo est l'histoire sur plusieurs générations d'un enfant riche dont le père a fait faillite, le château est vendu, et qui devient un grand clown très célèbre et qui rachète le château de son père.
Et voilà comment Pierre Etex parle de vous.
Il a compris tout de suite que c'était un métier particulier, tellement particulier qu'on ne peut pas écrire comme on écrit un scénario habituel, raconter une histoire avec un déroulement, une fin. Enfin bon, prenons un argument le plus simple possible, il nous ouvrira toutes les portes pour trouver des gags. Et lorsque je lui ai proposé, par exemple, de travailler sur le sujet de Yo-Yo, je lui ai dit, écoute, j'ai une idée, c'est de montrer qu'un milliardaire s'ennuie. ce qui est une erreur colossale. Mais on est parti sur cette idée, une idée d'une fable en quelque sorte. Mmh. Et alors on a cherché toutes les idées qui se rattachaient à ça, et c'est comme ça que s'est construit tout doucement le scénario. Et on est allé bien au-delà, évidemment. J'ai une vision qui est probablement un peu bêtasse, un peu élémentaire du comique, et celle qu'avait Molière quand il dit « c'est un difficile métier que de faire rire les honnêtes gens », et Jean-Claude Carrière toujours de rajouter « et les autres donc ».
Alors, réaction à ce que dit Pierre Etex, de vous et de lui.
Non, pas, excusez-moi, mais je suis très ému d'écouter sa voix. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, que j'ai énormément aimé, et ça me touche beaucoup. Il a raison, nous avons travaillé comme deux bricoleurs, vraiment. J'allais chez lui, il venait chez moi, on avait plein d'objets, c'était un remarquable dessinateur, il fabriquait des marionnettes, il fabriquait des automates, il était très très manuel. Et en même temps, lui aussi un très bon mime. Donc, ce qui est merveilleux quand on écrit un scénario, c'est d'avoir en face de soi l'interprète principal. Parce que vous avez déjà votre co-scénariste qui vous donne déjà les premières images du film. C'est comme pour le dernier que j'ai écrit avec Louis Garrel, c'est pareil.
L'homme fidèle.
L'homme fidèle, être avec Louis Garrel en face de soi et savoir que ce que nous sommes en train de dire, c'est lui qui le jouera, c'est comme déjà avoir presque le film devant soi.
Il faut être très poreux, en fait, à ce que dit le cinéaste.
Poreux, oui, pas trop quand même. Hein. Il faut de temps en temps pouvoir dire non. Mais il faut être très attentif et surtout très ouvert, ne pas partir avec une idée du film déjà dans la tête, avant d'avoir tout essayé, y compris les différents styles que le film peut avoir.
Donc il peut y avoir des pages et des pages et des pages qui sont jetées après, l'essentiel est d'essayer.
Et beaucoup de dessins, et beaucoup de choses filmées, que nous filmons comme ça avec une petite caméra.
Aujourd'hui, vous vous servez de votre portable et vous filmez?
Oui, bien sûr, ça peut arriver.
Donc vous filmez le cinéaste, vous filmez quoi d'autre?
Je filme Louis Garrel, par exemple, ou moi, ou nous deux, ou je joue quelquefois la femme, ça peut m'arriver, ça m'est arrivé assez souvent, Attic le sait. Et comment? Parce qu'il n'y avait qu'une femme dans son film, alors...
Vous estimez que le scénariste est un comédien?
Forcément, c'est-à-dire que le scénariste doit connaître à fond la technique du cinéma, parce qu'il doit savoir comment ce qu'il écrit va devenir un film. C'est tout. C'est facile à dire.
Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on a une comédienne, et pas des moindres, au téléphone, c'est Carole Bouquet. Ça vous dit quelque chose?
Ça me dit quelque chose, oui.
Tu te souviens vaguement?
Je me souviens vaguement de toi, oui, en effet.
Et pourtant, vous l'avez connue, elle avait 17-18 ans.
Et je m'apprêtais à t'appeler la semaine prochaine pour déjeuner ensemble, comme tu me l'as proposé.
Mais absolument. On avait une coutume avec Jean-Claude, c'est de déjeuner toutes les semaines ensemble, il y a des années, pour ma plus grande joie. C'est peut-être pour ça que je sais quelque chose sur le cinéma. Et nous allons recommencer.
C'est quoi être ami de Jean-Claude Carrière, Carole Bouquet?
Pour moi, qui avait 18 ans, donc qui était toute jeune, d'abord j'étais très étonnée qu'il me parle et qu'il s'intéresse à moi. Peut-être ça avait affaire avec mon joli minois à l'époque.
On rappelle que vous travaillez ensemble dans cet obscur objet du désir de Buñuel. Hein.
Oui, qui était le dernier film de Louis.
Et puis après, c'est des conversations qui font partie de ma vie et qui chaque fois m'enrichissent, me réjouissent, je ris avec lui, voilà.
Si on veut qu'une conversation soit intéressante avec Carole ou Attic ou quelqu'un d'autre...
Ou Peter Brook,
il ne faut pas fixer le thème à l'avance. On va déjeuner avec Carole la semaine prochaine. De quoi allons-nous parler? Je n'en sais rien. Un jour, je déjeunais avec Peter Brook et à la fin du repas, un journaliste s'est approché de nous et nous a dit « Mais vous avez encore des choses à vous dire ?» ça l'étonnait beaucoup.
Vous parlez forcément, Carole Bouquet et Jean-Claude Carrière, de cinéma quand vous déjeunez ou dînez?
Il va me raconter comment il a fait le dernier mur qu'il a fait dans son village. En pierre sèche, parce qu'il est encore un des seuls à savoir le faire.
C'est vrai.
Il va se plaindre que je mange beaucoup trop vite. Ça, il s'en plaint depuis que j'ai 18 ans, me disant « Mais en fait, tu n'as pas fait la guerre. » Donc, quelquefois, il me retire mon assiette en me disant « Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir, là, si tu ne manges pas, là, tout de suite. » C'est vrai que je me jette sur la nourriture et qu'il essaye.
C'est quelque chose qu'elle a de très particulier. C'est qu'elle mange très vite. Je n'ai pas commencé, qu'elle a déjà fini. Alors, on a un peu de mal à se synchroniser.
Ça veut dire que vous parlez plus qu'elle.
Oui, ça c'est vrai aussi. Oui, oui.
1977, vous êtes au conservatoire en première année, vous avez notamment comme professeur Antoine Vitesse, et Carrère et Buñuel vous happent et vous partez vers le cinéma.
Et je pars vers le cinéma et ça me vaut d'être envoyée du conservatoire parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de travailler. Et puis, quelqu'un d'intelligent comme Vitesse est allé... aider mon sort auprès du directeur du conservatoire qui était à ce moment-là Rosner, avec moi d'ailleurs, en disant mais c'est absurde, on ne fait pas ces études pour ne pas travailler, comment voulez-vous que je ne fasse pas un film de Buñuel alors que je veux être actrice.
Et vous dites qu'avec Buñuel, votre vie bascule. C'est pas rien d'employer ce mot-là.
Mais c'est vrai, du jour au lendemain, à la seconde même, ma vie a basculé, oui. Je voulais être actrice. J'avais émis le désir de l'être, et d'une seconde à l'autre, je le suis devenu avec l'un des plus grands metteurs en scène au monde. Votre vie, tout d'un coup, change.
La vie vous échappe, quelquefois. Et quand quelque chose que vous n'avez pas prévu arrive, il faut toujours sauter dessus. Parce que ça veut dire que ça vous guettait, c'était pour vous. Il faut rien refuser.
Oui. Ne pas avoir peur.
Ne pas avoir peur du tout.
Alors là, j'ai eu peur. Hein. J'ai dit oui, mais j'ai eu peur. J'étais persuadée que tous les jours j'étais renvoyée, j'allais voir Buñuel qui parlait pas beaucoup, puis il n'a pas envie de parler avec ses acteurs, c'est surtout pas de psychologie, mais ça c'était pas mon truc, hein. De toute façon je n'osais pas le faire. Il avait cette chose extraordinaire où il m'a appris à jouer, parce que je voyais qu'Angela, l'autre actrice qui avait beaucoup plus d'expérience que moi, lui posait des questions sur le personnage. Alors il faisait semblant d'être sourd, il l'était, mais là il l'exagérait beaucoup, et puis il partait. Donc moi, pensez-vous, je posais aucune question, mais par contre il était très très précis sur les mouvements à faire, si je devais me tenir droite ou un peu courbée, la hauteur de la main, les mouvements étaient immensément précis. Et ça m'a appris beaucoup. Plutôt que de chercher à comprendre ce que peut penser un personnage, que de toute façon j'ai des millions de possibilités qui ne seront pas la vérité, qui ne seront que la mienne et certaines à ce personnage, je suis même pas sûre. Par contre, la représentation, puisque c'est ça, hein, c'est le costume, la manière dont on bouge, ça il m'a appris, oui.
Carole Bouquet a 18 ans pour vous, Jean-Claude Carrière. Vous voyez arriver qui sur le plateau ?
Je ne l'ai pas vu arriver sur le plateau. Je l'ai connu avant. J'ai vu cette très très ravissante jeune femme qui voulait être comédienne. Et le fait que je l'ai présentée, c'est pas moi qui l'ai présentée à Buñuel, elle avait fait des auditions, mais qu'elle a été prise dans le film, m'a enchanté. Comment vous dire ? Ce ne sont pas des choses qu'on regrette.
Carole Bouquet, est-ce que vous vous souvenez de votre toute première interview ?
Non, pas du tout, non.
Eh bien, le voici ce souvenir.
Carole Bouquet, vous voici à 19 ans avec un premier film extraordinaire. C'est votre première interview aujourd'hui. Alors, je voudrais savoir comment vous vous sentez, comment vous prenez tout ça.
Je le prends. D'abord, c'est une chance comme ça extraordinaire que j'ai eue. Maintenant, c'est très très dur, c'est-à-dire que peut-être que je pourrais travailler comme ça longtemps. Il faut que je choisisse un peu ce que je vais faire. Pas toujours être utilisée comme je suis, comme ça.
Mais le théâtre vous retient tout de même.
Énormément, oui, parce que je voudrais travailler au conservatoire. Je vous dis, j'ai été chez quelqu'un qui s'appelle Antoine Vitesse. J'ai envie de travailler avec lui au conservatoire pour essayer de qu'on me demande de monter sur un plateau.
Donc pas du tout assommé par cette aventure.
Pas du tout, non.
Moi, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous faisiez avant de tourner avec Louise Buñuel, puisque c'est votre premier film, vous n'avez jamais fait de cinéma.
Ce que je fais, je suis au conservatoire à Paris, et je suis chez un monsieur qui s'appelle Antoine Vitesse. J'ai pas tellement travaillé avec lui, parce que j'avais jamais fait de théâtre avant. Alors je suis arrivée là-bas, et la première année, je suis restée un peu dans mon coin, un peu terrifiée. Et puis, j'ai commencé à travailler l'année dernière, voilà.
La voix n'a pas changé, Carole Bouquet.
Pas tellement. Pourtant, Dieu sait si on me l'a reproché, ma voix, au début. Donc j'ai cru, je m'attendais à une voix très très différente. J'avais un metteur en scène, on peut le dire maintenant, Claude Berry, qui m'avait dit « Oh là là, avec cette voix-là, Carole, tu ne travailleras jamais.
» On m'a dit la même chose à l'école de journalisme, on m'a dit « Ne fais surtout pas d'audiovisuel.
» Jean-Claude m'a fait plein de cadeaux dans la vie, par ce qu'il m'a raconté, par son amitié. Et une des choses les plus jolies qu'il m'ait raconté quand j'avais 40 ans, il m'a dit, mon Dieu, que tu feras une jolie femme de 50 ans. Et quand j'ai eu 50 ans, il m'a redit la même chose pour les années après. Il m'a dit, mon Dieu, que tu feras une belle femme de 60 ans. Voilà.
C'est bien d'avoir un ami comme Jean-Claude Carrière.
Oui, elle sera notre plus bel ancêtre.
Merci d'avoir été des nôtres et du grand atelier de Jean-Claude Carrière, Carole Bouquet.
Je vous embrasse tous les deux. J'embrasse particulièrement mon Jean-Claude.
Oui, on se voit la semaine prochaine. Hein.
On se voit la semaine prochaine.
Oui, je t'appelle.
Et ne mangez pas trop vite.
Okay. Merci, je vous embrasse.
Le grand atelier sur France Inter.
I could not believe it, could not believe our eyes. The thing that I saw down there, down between her thighs. I consume over and over again. Roll over at the lock, holy broken skin. If I turn it over, would you make it work? When you plug it in, will you dig the dirt? Can you count me sideways to that other realm? Can you take me up there? Can you take the helm? Beat me for the promise. I pray and I pray God. My refugee is throbbing underneath the song. Deep inside a man, a loyalty dissolves. Deep inside a stranger, necessity of songs.
White Family, c'est un Américain, Jean-Claude Carrière, qui finit la plupart de ses concerts entièrement nus.
Il y a une raison à ça.
La fièvre.
La fièvre.
L'euphorie.
L'euphorie.
La guitare.
Ouais.
Le rock.
Ouais, le rock, oui, pourquoi pas. S'il est bien foutu. Hein.
Ce qui est bien avec Jean-Claude Carrière, c'est qu'il ne juge pas.
Non, pas du tout. Je n'ai absolument aucun jugement moral sur qui que ce soit. Si vous me parlez des Gilets jaunes, par exemple, je ne saurais pas qu'en dire, parce qu'on peut dire ceci et cela. Des choses tout à fait opposées à leur sujet.
Pourtant, vous avez des opinions.
Ah, j'ai des opinions très tranchées, même, quelquefois. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui va arriver. C'est ce que je n'attends pas. J'ai toujours été, je vous l'ai dit, d'une très très grande curiosité. Toute ma vie, j'attends toujours que quelque chose m'arrive dès que je me lève le matin et jusqu'au soir. Et je crois aussi, ça je voudrais le dire aux jeunes cinéastes ou écrivains, il faut avoir au départ une disposition, une envie, que certains disent un don, un talent pour ce qu'on veut faire, que ce soit de la musique, de la peinture, de... Mais ce don, il est très rare et il faut le mériter. Il ne suffit pas d'avoir un don. Il faut le travailler chaque jour, chaque jour, chaque jour.
Vous travaillez depuis toujours énormément.
Je suis dans ma 88e année. Je travaille tous les jours.
Jusqu'à 2h du matin.
Oui, absolument. Oui, encore aujourd'hui. Et ça, il y a une phrase de Georges Brassens dans une de ses chansons que je voudrais vous citer. Il parle d'une prostituée, excusez-moi. Et il dit, elle avait le don. C'est vrai, j'en conviens. Elle avait le génie. Mais sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie. Il y a des écrivains maniaques qui n'ont pas le don. Et qu'en tout cas, s'ils ont eu le don, ils ont cru que ça suffisait. Non, il faut absolument mériter ce don et le travailler chaque jour, chaque jour, chaque jour.
Atik Rahimi, comment on rencontre un Jean-Claude Carrière quand on vient de Kaboul ?
J'ai d'abord rencontré Nahol Tajadod, sa femme.
Qui viendra avec nous tout à l'heure.
Oh, oui.
Mais tu m'avais pas dit ça.
Oh, bah,
après ça,
à tout dire. Hein. Tout simplement parce qu'on a un ami commun, un Afghan, Barmak Akram, qui voulait me présenter la mère de Nahol Tajadod. Parce que mon premier livre venait juste sortir en persan, Terre et Cendre, et il voulait que j'offre un exemplaire à Madame Tajadod. Donc je suis allé le voir. Très timidement.
Madame Tajadod, qui est iranienne, effectivement.
Et voilà. Après, donc, je voyais, bien sûr, deux, trois Jean-Claude, mais je n'osais jamais m'approcher de lui.
Pour quelle raison?
C'est un monument, pour moi.
Un monument parce qu'il a écrit des films que vous adorez?
Absolument. Tous les films de Buñuel, et puis, pour moi encore, le film La Piscine, pour moi, c'était quelque chose. Alors que j'avais
Jacques
Doré. Jacques Doré. Et puis, ses livres. Bien sûr, la première fois que j'avais lu, c'était La Fragilité. Je connaissais pas bien Jean-Claude. Et justement, il touchait avec ce livre à un thème extraordinaire et qui me touchait énormément, qui est la fragilité humaine, la faiblesse humaine. Et c'était la force de la fragilité. La force, absolument. Et comment on peut trouver la force dans la faiblesse? Ce paradoxe extraordinaire. Et comment tous les héros sont devenus héros grâce à leur faiblesse. D'abord. Mmh. Ensuite, ils ont trouvé la force. Et puis, la conférence des oiseaux et son attachement, justement, à l'Inde et puis à la culture persanophone d'où je viens.
Son absence de frontières.
Absolument. Mmh. Et l'ouverture de son esprit.
Donc, alors, la suite, c'est Jean-Claude Carrière qui va la raconter. Parce que vous voyez arriver cet Afghan exilé à Paris et qui écrit Terre et Cendre et d'autres romans et récits et qui fait aussi du cinéma, des documentaires et de la fiction. Mmh. Il arrive devant vous intimidé, monsieur le monument?
Non, pas intimidé du tout. Qu'est-ce qu'il raconte. pas du tout. Mais simplement, je suis fier d'une chose, c'est que c'est moi qui l'ai poussé à faire un film.
De Singer Sabour, son prix Goncourt.
Oui, oui, absolument. Oui, absolument. Et même, il n'y croyait pas. C'est pas possible, il n'y a qu'un personnage de femme.
Oui. On raconte en quelques mots que c'est une femme qui est au chevet de son mari. Il est blessé à la tête.
Il est blessé à la tête et qui ne peut pas parler.
Il ne peut pas parler, mais sans doute qu'il entend et elle va l'accompagner, le maintenir en vie avec ses mots.
Et peu à peu, elle se révèle elle-même. Elle se découvre et nous découvrons qui elle est et quels sont les rapports qu'elle a eus avec son mari.
Ce qu'elle a subi, qu'elle a vécu d'heureux ou pas, oui. Même la découverte du plaisir.
Absolument.
Et pour convaincre Atik de faire un film, j'ai écrit une première version du scénario.
Pourquoi il y avait un film dans ce huis clos? C'est juste une femme qui parle à un homme.
Parce que tout le monde lui disait, mais fais-en une pièce de théâtre comme si, parce qu'il a très peu de personnages, c'était forcément du théâtre. Pas du tout. Moi j'ai une grande habitude de Peter Brook, on peut avoir sur scène un personnage qui en joue 15. Et dans Singer Sabour, il y a bien sûr un personnage de femme centrale avec son mari, mais il y a des visiteurs. C'est pas vrai qu'elle est seule, il y a de temps en temps des gens qui vont et viennent. Donc c'est pas vrai, c'était vraiment pour moi un film. Parce qu'il y avait une progression, il y avait une action intérieure. Ce sont les actions les plus subtiles à manipuler. Pour moi, le chef-d'œuvre du théâtre français de tous les temps, c'est Bérénice. Parce qu'il ne se passe rien et il se passe tout. À chaque vers, quelque chose avance vers la fin. Et c'est une pièce que je relis régulièrement une fois par an.
Je vous voyais plus shakespearien que racinien.
Oui, je ne vais pas les comparer. Hein. De toute façon, Shakespeare n'a pas connu Racine, que je sache.
On ne sait pas tout sur Shakespeare. Atik Rahimi, vous recevez donc une première mouture de scénario?
Oui, on avait travaillé, comme Jean-Claude vient de dire, avant, sur un scénario tiré d'une petite nouvelle de Rabindranath Tagore qui s'appelait Kabuliwala. Donc, c'est pour ça que je m'étais rencontré justement à Delhi. Et c'était en 2005.
Et ça n'a pas abouti.
Non, c'est bien dommage.
Pas à cause de des problèmes qu'on a eu avec les producteurs, etc.
Du coup, il vous offre une deuxième chance avec Singe Sabour.
Avec Singe Sabour, bien sûr, parce que tout le monde me parlait d'une pièce de théâtre, etc. Et le premier, Jean-Claude, qui est venu me dire, non, Atik, c'est un film. C'est un film d'action. Et quand on a écrit, quand j'ai lu la première version, et je me trouvais devant un thriller, presque. Donc, il y avait tant de choses qui se passaient. Il dit, mon Dieu, c'est ça que j'avais écrit.
Au fond, il va plus vite que tout le monde, Jean-Claude Carrière. Il a vu avant vous.
Ah oui, sinon, il ne serait pas Jean-Claude Carrière. Bien sûr.
Et du coup, comment allez-vous commencer à travailler ensemble sur ce scénario? Est-ce que c'est un travail à quatre mains? Est-ce que vous réceptionnez le scénario une fois terminé et puis vous retravaillez dessus? Ça se passe comment?
Au début, avec Jean-Claude, on a passé presque 2-3 semaines à lire le livre. Et puis, tout ce qui était, évidemment, n'était pas cinématographique, on a éliminé. Ensuite, Jean-Claude est parti pour un mois. Et après un mois, j'ai eu la première version de scénario. Après, on a retravaillé
bien sûr,
pour arriver à une version finale.
Vous aimez travailler avec des auteurs, hein? Vous aimez adapter des romans.
J'aime beaucoup travailler avec quelqu'un, oui. C'est-à-dire que le travail solitaire est intéressant, mais pouvoir dialoguer avec quelqu'un, pouvoir, sur le visage de quelqu'un, lui proposer quelque chose et voir sa grimace de satisfaction ou de désappointement, c'est essentiel.
Vous parliez
surtout quand vous vous trouvez en face de Buñuel, que vous lui proposez quelque chose, et que il penche la tête vers vous comme ça, ça veut dire qu'il est intéressé.
Oui.
S'il se met en arrière, non. Ça l'intéresse pas.
Vous devez tout interpréter.
Hein. Oui, absolument. Absolument.
Et quand on travaille justement avec Jean-Claude, parce qu'il a un bureau au sous-sol, et puis il a un endroit précis où il aimerait bien justement mettre l'autre en face de lui, avec une lumière qui vient derrière lui. Lui, il est en contre-jour, vous êtes en... Voilà, la lumière qui revient.
Ça, c'est pas calculé. Hein. C'est, pas... c'est toi qui le dis, mais j'ai pas...
Et puis, petit à petit, on s'oublie. Et il vous pose d'abord des questions précises, de temps en temps, qui n'ont rien à voir avec le scénario, avec l'histoire.
Par exemple,
il me demande pour écrire un dialogue à quelque chose complètement d'autre qui n'a rien à voir avec la scène. Ensuite, il vous ramène à cette scène. Le plus amusant, c'est quand il dit « Ok, maintenant, allez debout, joue cette scène ». Je n'arrive pas, il dit non. Et ça se joue comme ça. Ensuite, il dit si tu n'arrives pas à jouer une scène, ou si tu n'arrives pas à jouer une réplique ou un dialogue, ça veut dire que ce n'est pas. Là, tu ne peux pas le mettre en scène.
Ah oui, ça passe encore une fois par le corps
absolument.
Et par le jeu.
J.E.U. Évidemment.
Absolument.
Évidemment.
À chaque fois. Donc, même les dialogues, quand tu dis que ton comédien doit dire ça comment? Comment? Et puis on réfléchit, on voit qu'en effet, c'est un dialogue qui ne va pas passer au cinéma. Donc, en jouant ça, pour Kabuliwala, parce que c'est l'histoire d'un vieillard avec une jeune fille, alors, de temps à autre, il jouait justement la jeune fille de 6 ans, 7 ans.
Ah, je voudrais voir ça. ça parle comment, une petite fille de 6 ans, Jean-Claude Carrière?
Je ne peux pas vous le dire ici, parce qu'elle parle afghan.
Vous vous en sortez bien. On écoute un petit extrait de votre film Singe Sabour.
Davron kudakay mindozam. Bovim az yak sang gap mezad. Az yak sang jodui afsanavi. Migaft har vaqt ki sang paydo kedida pishurit kun. Barish tamam darda va roza va asrorata bugun. Sang gushit mekara. Tamam u chizaye ki hech vaqt jurat nakidi ba kas bugun ba umigi. Umigi. به اسرارت گوش میده کل چیزها رو بشنوه و یک روز سنگ میدرقه توته توته میشه و اون روز تو آزاد میشی از تمام دردهایت آزاد میشی نامش چیز؟ نام سنگ؟ سنگ صبور
Sangue sabor. Je voulais qu'on entende cette langue, la vôtre, hein, celle de votre berceau, si je puis dire, même si vous maîtrisez aujourd'hui très bien votre langue d'adoption, le français. Qu'est-ce qui se passait dans cette scène-là,
Ça, c'est la scène centrale autour de laquelle tout le film se structure. Voilà, c'est l'explication de la légende de Sangue sabor, la pierre de patience, qui existe dans notre culture persanophone. C'est une pierre... dès qu'on la trouve, une pierre légendaire, imaginaire, dès qu'on la trouve, on la dépose devant soi et on déverse tous ses secrets, toutes ses souffrances, tous ses non-dits, voilà.
Et cet homme va être cette pierre, en fait.
Cette pierre, voilà, absorbe, et un beau jour, elle éclate, et ce jour-là, on est libéré de toutes ses souffrances. Donc, Jean-Claude, qui aime tant des contes, des légendes, voilà, il voulait que cette scène vienne juste au milieu du film. En effet, cette scène divise le film en deux parties.
Un scénariste, c'est un visionnaire, alors. Vous devez voir avant l'auteur, avant Atik Raimi, avant le cinéaste.
Moi, en même temps, en tout cas. C'est-à-dire que je me rappelle très très bien le très très long face-à-face avec Buñuel, tous les deux seuls, des heures et des heures pendant des mois, tout ce que je voyais passer sur son visage. Je me rappelle même une fois, il m'a dit, à ce rythme-là, je n'exagère rien, je crois que j'ai une bonne idée, mauvaise. Ça va très très vite quelquefois, voyez. Je crois que j'ai une bonne idée, mauvaise.
Il vous a tout appris, Buñuel?
Il m'a appris beaucoup, il m'a montré beaucoup, mais on peut pas dire qu'on apprend. C'est pas comme un professeur qui apprend, il faut faire les choses comme ceci ou comme cela. Ça n'intéresse pas. Ce qui intéresse un metteur en scène de 30 ans plus âgé que moi, et avec la réputation et la gloire qu'il avait, c'est de trouver quelqu'un qui puisse ne pas être trop intimidé par lui, et qui puisse, lui, donner la réplique, oui, lui proposer des choses de lui-même. Ça n'a pas été facile, parce qu'au début, c'est très difficile quand Buñuel vous propose quelque chose, de dire non, ça ne me plaît pas. Et le producteur est venu faire un voyage uniquement pour dîner avec moi, et me dire, vous savez, Buñuel, il faut lui dire non de temps en temps. Ce jour-là, j'ai compris. Et à partir du moment où j'ai commencé peu à peu à m'opposer à certaines de ses idées, là, ça a marché.
Atik Raimi, vous a-t-il dit non, Jean-Claude Carrière?
Non.
Ça viendra.
Ça viendra, bien sûr. Justement, comme je viens de dire, il y a une ouverture d'esprit, et puis rien n'est impossible à raconter pour lui. On peut parler de n'importe quoi, réfléchir, et on sent que ça y est, il y a quelque chose qui est en train de se structurer.
Il décommande son visage à ce moment-là. Lui qui parle des visages de Buñuel et des autres cinéastes.
Ah bah oui, alors... Ah,
c'est un visage à montrer à la radio.
Tout peut se dire à la radio.
Alors, d'abord, ses mains, ses doigts caressent sa barbe ensuite, et ses yeux qui partent, et très vite, il revient avec une idée. Ou bien, par exemple, je me rappelle quand je lui ai raconté la première fois l'histoire de Kabuliwala en Inde. Il s'est levé, il a marché, je sais pas, 3-4 pas, et ensuite il a commencé. Non, cet Afghan, comment il est venu à Calcutta? Et petit à petit, tout en me questionnant, je voyais où il voulait venir et comment il construisait l'histoire. Et on a eu vraiment peut-être en 15 minutes le corps de ce scénario.
Jean-Claude Carrière, l'homme qui marche.
Non, c'est bien dommage qu'on l'ait pas tourné, celui-là. C'est-à-dire, on a tous beaucoup de regrets. Mmh. Il y a des films qu'on regrette d'avoir fait. Mais beaucoup qu'on regrette de ne pas avoir pu tourner.
On va écouter un comédien qui chante, c'est Louis Garrel. C'est un cinéaste aussi, Louis Garrel, de plus en plus. Vous venez de l'aider à accoucher de l'homme final, écrit à quatre mains avec Louis Garrel.
Il a repris... On a un autre projet ensemble.
Vous avez un autre projet, vous allez nous raconter ça après. Je voudrais qu'on l'écoute quand il chante avec Woodkid une chanson d'Yves Simon.
De ces collines où du matin à Los Angeles, j'ai bien reçu l'aérogramme arrivé par express d'un océan et quelques rues de Paris 18e. c'est si loin. Je ne sais plus si c'est vrai que je t'aime. Sunset Boulevard, des Indiens nous vendent des photos. Lorraine Bacall et Hollywood avaient 30 ans de trop. Sur ces collines, près de la mer, j'ai vu Henri Miller. Je ne sais plus si j'aime encore la vallée de la mort. Bien reçu, l'aérodrome arrivé par express.
L'aérodrome de Los Angeles, une chanson d'Yves Simon, adaptée, reprise par Woodkid et Louis Garrel. Louis Garrel, chanteur donc, comédien et cinéaste. Il a entre autres réalisé L'homme fidèle avec Jean-Claude Carrière.
Ah, tu as appelé Eve, dis donc.
Oui.
Et alors?
Alors, elle m'a dit, viens.
Et tu y vas?
Ben oui, l'idée vient de toi, hein, je te rappelle. Oui, il y a juste un truc.
Oui, quoi?
Si je couche avec Eve.
Oui.
Comme tu me le conseilles, c'est bien ça que tu me conseilles.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que je dois vivre avec elle?
Ça m'en a tout l'air.
Non, ça c'est parce qu'elle m'a dit de prendre quelques affaires, tu vois. Et on peut aussi coucher sans se mettre ensemble.
Tu veux dire que tu rentrerais ici le soir?
Oui. Enfin, éventuellement, tu vois, comme toi, quand tu voyais Paul dans la journée et puis que tu rentrais ici le soir.
Ah, tu m'en veux encore?
Non, tu vois, mais des fois, j'y pense.
Laetitia Casta et Louis Garrel, elle le quitte au début du film, mais il va mettre quand même 10 années à le reconquérir.
Rassurez-vous, ils sont mariés dans la vie.
Ils sont mariés dans la vie. Serge, je parle de leur personnage dans L'homme fidèle que vous avez écrit avec Louis Garrel. On a ri en entendant ça. Finalement, il y a quelque chose de burlesque dans ce film.
Je ne peux pas écrire quelque chose de sérieux. C'est absolument impossible. Le rire, peut-être ça vient de Tati et Tex, est une porte qui vous permet d'aller beaucoup plus loin que n'importe quel
même autre. Même quand ouverture. On écrit ou qu'on adapte le Mahabharata avec Brooke.
Écoutez, dans le Mahabharata, au début, la première phrase commençait par un roi qui, chassé, s'endormit, il rêva de sa femme et son sperme jaillit. Bon, c'est un conteur qui dit ça. Et il y a Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, qui écrit. Et il continue. Bon, les gens allaient là comme un devoir culturel, vous voyez. Et j'ai dit à Maurice Bénichou, quand il dit ça, rajoute, ça commence bien. Toute la salle riait. On pouvait aller beaucoup plus loin, vous voyez, parce que on avait le droit de rire.
Oui, c'est ça, on est autorisé.
On donne au lot public le droit de rire. Ça, c'est même dans un grand poème épique, donner le droit de rire, il n'y a rien de plus précieux.
Du coup, avec Garrel, vous écrivez quoi? Une comédie sentimentale?
Comédie romantique, disent les Américains, mais on écrit ce qu'on a envie d'écrire, on écrit une histoire, bien entendu.
C'est lui qui vient avec cette histoire?
Non, on en a parlé ensemble, je crois. La prochaine, c'est moi qui l'ai proposé. Je crois qu'il aime beaucoup, elle n'est pas encore terminée. Ce sera un film pour l'année prochaine, sûrement.
Ce sera quoi?
Je ne peux pas vous dire comment ça s'appelle, La Croisade, voilà.
Ah, film en costume?
Non, en costume d'époque, mais d'époque contemporaine.
Alors, autre école finalement, par rapport à Atik Raïmi ici présent. Atik Raïmi est un conteur, est un poète, est un écrivain. Garrel vient du cinéma, il est le fils de Philippe Garrel et de Brigitte Sy. Vous l'avez sans doute fait sauter sur vos genoux quand il était petit, quand vous travailliez avec Philippe Garrel.
Oui, je le connais depuis longtemps. Oui, c'est vrai.
Et son caractère et son éducation de comédien, qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous scénariste quand vous parlez d'un projet de film avec lui?
Alors, je me retrouve un peu dans la situation de Pierre Etex. C'est-à-dire que j'ai en face de moi l'interprète. Il est à la fois le co-scénariste, puisque je lui raconte le scénario, il réagit, etc. Et en même temps, il joue. Il ne peut pas s'empêcher de jouer. Donc, je vois déjà le gros problème du scénariste du moment où on écrit le scénario, c'est de voir le film. C'est comment ça va être une fois que ça va être filmé. On n'a pas, il y a 1000 possibilités. Déjà, d'avoir l'acteur principal en face de soi, et quelquefois aussi Laetitia, que j'aime beaucoup, que je vois même sans lui quelquefois.
Il est au courant ?
Pas sans, oui, oui, il est au courant, rassurez-vous. Non. Mais c'est très, très précieux d'avoir en face de soi-même, d'une manière très maladroite, très, très élémentaire, les premiers éléments du film, comme ça, qu'ensuite on va perfectionner, raffiner.
Qu'est-ce que sa jeunesse a apporté au scénario et à votre collaboration ?
Bon, d'abord, le fait que je suis un peu plus jeune que lui ne l'a pas gêné. je crois qu'il a accepté notre différence d'âge. Et j'essaie de m'incliner devant son expérience.
Et qu'est-ce qui vous a intéressé chez Louis Garrel dans son expérience d'acteur et de cinéaste? Car il a quand même fait 3 courts-métrages.
Il a fait un bon film travaillé qui s'appelait Les Deux Amis,
avec
bien sûr.
Christophe Honoré.
Ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'un jour, il m'a dit, j'aimerais venir te lire un scénario. Il s'est assis en face de moi et il m'a lu le scénario des deux amis, auquel je n'ai pas collaboré. Mais, de temps en temps, je l'arrêtais, je lui posais une question, je lui suggérais ceci ou cela. Mais à peine, quoi, ça a duré 2 heures. Et c'est de là qu'est partie notre collaboration. Ensuite, il est revenu. Je sais pas s'il reviendra encore. Mais je crois.
Atik Rahimi, vous avez gardé le scénario, la dernière étape du scénario de Singe Sabour?
Ah bah oui.
À quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a des dessins dessus? Parce qu'il dessine, Jean-Claude
Toujours. À chaque fois, quand on démarre un projet,
dessine aussi.
Le lendemain, je vois justement des papiers. Il dit, voilà, ton personnage ressemble à ça. Je regarde. Et c'est là, en effet, vous voyez, que comment l'histoire prend forme dans sa tête. C'est vrai que ça aide énormément. J'ai gardé tant de dessins.
C'était mon premier métier. Le premier argent que j'ai gagné de ma vie, c'était comme dessinateur. Et d'ailleurs, depuis hier, il est décidé que je fais une expo à Téhéran au mois d'octobre.
Eh ben voilà.
Qu'est-ce qu'on voit dans vos dessins, dans ceux que vous allez exposer, Jean-Claude Carrière?
Des scènes de la vie de l'Iran. Des croquis, un peu de tout. Pas de scènes imaginaires et pas de scènes de film. Des scènes prises dans la vie de tous les jours, dans la rue.
Vous avez eu plein de possibles à votre départ, parce que vous êtes un très bon élève, on l'a dit, un exemple de l'éducation que pouvait donner la Troisième République.
Hein,
un exemple,
si j'ai une chose à dire, c'est éducation. Vive la République.
Vive la République. Voilà. Vous auriez pu devenir historien, puisque vous avez fait des études d'histoire, normal, sup, etc. Vous auriez pu être dessinateur aussi. Et puis, le désir d'écrire des histoires a été plus fort.
Il y a une chose qui m'est interdite, c'est la musique. Je n'ai jamais pu apprendre la musique, parce qu'enfant, il n'y avait pas de musique autour de moi. Donc, il aurait fallu que je lui mette très très tard, et ça c'est une chose qui me manque. J'ai fait des chansons, j'ai travaillé, j'ai fait tout un disque avec Juliette Gréco.
On l'écoutera tout à l'heure, oui.
Un très très grand honneur, mais la culture musicale me manque.
On dit un mot des Porteurs d'eau. Les Porteurs d'eau, c'est le dernier livre de Atik Rahimi paru chez POL.
Ah bon?
Peut-être qu'un ou deux auditeurs ne l'ont pas lu encore. On a là deux personnages, deux hommes, un Afghan exilé à Paris et puis un Afghan qui travaille toujours, qui est porteur d'eau à Kaboul. Il n'y a pas de cinéma là-dedans, Jean-Claude Carrière, en devenir?
Écoutez, c'est un mano à mano, ce livre. C'est ce qu'on appelle en corrida un mano à mano. Il y a deux matadors. Un contemporain qui habite l'Ouest et l'autre qui habite Kaboul. Et on va de l'un à l'autre d'une manière que je ne peux pas vous raconter mais qui est extrêmement fascinante.
Est-ce que ça pourrait être un film un jour?
Peut-être. Bon, je crois que ça pourrait être plutôt deux films qu'un.
Et vous, votre avis, Atik Rahimi?
Comme toujours, je vois pas du tout un film parce que c'est tellement une histoire tellement intériorisée, c'est presque, oui, une sorte de monologue permanent.
Il y a quelque chose qui coûterait très cher dans le film, c'est qu'il faudrait faire sauter les Bouddhas de Bamiyan. Déjà, cette scène-là boufferait une partie du budget.
Il réussit à nous faire rire avec la destruction des Bouddhas quand même. Hein.
Ah bah écoutez, là dans le livre, justement la fin, je termine avec Jean-Claude, d'une certaine manière. Hein. Mon personnage écoute la radio il entend une voix sage d'un érudit qui raconte une histoire que Jean-Claude lui-même avait racontée à propos du Bouddha. Et je lui demande de me raconter encore une fois.
Vous savez, la légende veut qu'il y ait un immense Bouddha caché quelque part, qui est une sculpture, caché quelque part dans cette région du monde. Et je raconte l'histoire d'un petit groupe d'explorateurs qui meurent de soif dans le désert et qui vont mourir. Et ils arrivent un soir et il y en a un qui trouve un trou et il semble que dans ce trou, il y ait peut-être un peu d'eau au fond. Alors il se débrouille pour descendre le plus difficilement possible. Et en effet, il trouve un peu d'eau, il se désaltère, il revient et il s'endort, sans jamais se douter qu'il a bu dans l'oreille du Bouddha.
Merci Jean-Claude Carrière, restez avec nous. On vous retrouve en deuxième partie. On va parler de poésie, on va parler de l'Iran, on va parler de l'univers, on va parler de science au pluriel. Merci à Tic Rémy d'avoir été l'invité de Jean-Claude Carrière.
Il y a d'une part une nonchalance nécessaire, c'est-à-dire une ouverture. Il faut pouvoir se promener, écouter les conversations dans les bars, aller à Calcutta, aller à Mexico. Et de l'autre côté, il y a une implacable rigueur de travail. Alors je veux dire que je ne peux pas rester un jour sans écrire, c'est absolument impossible. Ce serait comme un pianiste qui ne pratiquerait pas.
Deuxième heure en compagnie de l'homme qui raconte des histoires et qui sait raconter des histoires. Je peux vous dire que depuis les infos, nous avons entendu à peu près une demi-douzaine d'histoires et souvent d'histoires drôles. Jean-Claude Carrière.
Le principe du rire, on en parlait déjà tout à l'heure, enfin, ouvre toutes les portes, y compris les plus tragiques. Moi, je ne peux absolument pas vivre sans rire.
Ouais. Vous dites souvent
Michel
que
Cassé, par exemple, me fait beaucoup rire.
Oui, Michel Cassé, astrophysicien ici présent, avec qui vous dialoguez, conversez très régulièrement
depuis 30 ans.
Des dizaines d'années.
Depuis 30 ans, oui.
Michel Cassé qui prend toujours des notes. Vous avez un cahier plein de notes. Qu'est-ce que vous avez écrit?
Eh bien, je viens d'écrire une thèse sur le rayonnement cosmique, ou le rayonnement comique, en fait.
Pendant la première heure.
Exactement.
Bon, ben, vous nous en ferez part tout à l'heure. Présentez-nous cette jeune femme qui est en face de vous, Jean-Claude Carrière.
Je venais d'adapter le Mahabharata. Après 11 ans de travail.
Avec Peter Brook.
Avec Peter Brook. Le plus gros travail de ma vie et le plus difficile. Et un jour, je reçois un coup de téléphone de l'UNESCO en me disant « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir vous interviewer sur la notion d'épopée ?» C'est pas facile, hein. Et on m'envoie une jeune femme de 29 ans, très jolie. Elle parlait parfaitement français, bien qu'elle fût d'origine iranienne, ce qu'elle me dit. Et elle prononce Mahabharata comme il faut. C'est-à-dire qu'il y a deux accents toniques, Mahabharata, oui. Et c'est très difficile à dire.
Et vous tombez amoureux.
Et je, oui, absolument.
Non, il a mis 13 ans.
Elle me fait une interview.
Oui. De qualité.
D'extrême qualité. Et puis le lendemain, elle me rappelle, en me disant, j'ai pas de photo. Alors, elle est revenue, etc. Et on a continué.
J'aime beaucoup le...
Il veut insinuer que c'est moi qui l'ai tragué.
Voilà. Oui, vous avez... il était très malin, Jean-Claude Carrière. On va dire votre nom, je vais vous laisser le prononcer.
À la française?
À la française, par
exemple. Nahal Tajadud.
Et les Iraniens disent
comment? Nahal Tajadud.
Voilà. C'est très joli, parce que quand Jean-Claude Carrière nous a donné sa liste d'invités, il y avait son épouse. Vous n'êtes pas que l'épouse de Jean-Claude Carrière, on va parler avec vous. De toutes vos activités. Ah bon. Vous avez dit, ça me gêne un peu de venir, je veux pas être l'épouse de l'invité principal. C'était joli cette gêne, Jean-Claude Carrière. Ouais, ouais. Et Jean-Claude Carrière a dit, je veux que ma femme soit là.
Oui, absolument. Parce qu'elle est un auteur à part entière. Elle est docteur en chinois. Elle sait infiniment plus de choses que moi. Elle a 1000 choses à dire. Et si vous commencez à la faire parler, vous verrez, moi je me tais, Attic aussi. Il y a que Michel Cassé qui sera difficile de faire taire.
Bon, alors je tiens juste à dire que après, le coup de téléphone pour les photos, il m'a invité à dîner et il est venu avec Carole Bouquet.
Ah bon?
Mettez-vous à ma place. Je viens voir Jean-Claude dans un restaurant et il arrive avec Carole Bouquet.
À mon avis, il a dit...
Il fallait être tenace.
À la fin, il a téléphoné à Carole Bouquet, il a dit « Comment tu la trouves ?»
Oui,
On saura tout sur le couple Carrière Tajatone. Dans un instant, je voudrais qu'on écoute une première chanson. C'est M, Mathieu Chédid, vous le connaissez sans doute.
Oui, très bien.
Il a écrit une chanson qui s'appelle « Grand petit con ».
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand, grand petit con.
t'ai pas vu? Je n'ai pas une minute à moi ni à personne. Je suis mon propre but. Au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con.
Et ce que tu
veux dire tellement chien. De la grande illusion, à volonté c'est l'or. Transformé en passion, qui n'oublie pas la voix. Lumineuse des anges, celle qui te dit tout bas. Prends l'amour sans échange, donne-le sans recevoir. Aime du matin au soir, et surtout n'oublie pas. Quand petit con c'est toi, quand petit con c'est moi. Quand petit con c'est toi, quand petit con c'est moi.
Jean-Claude Carrière, petit con, c'est charmant comme insulte.
Oui, d'autant plus que le mot con, comme vous savez, veut dire lapin. Ça vient du latin directement et c'est un très charmant petit animal.
Ah oui, petit lapin, c'est mieux que petit con d'ailleurs. On devrait s'insulter comme ça. Vous êtes amené à écrire des insultes comme scénariste?
Je suis même amené à l'inventer quelquefois dans d'autres langues. Quelquefois, il y a une expression, l'insulte dépend beaucoup de la manière de le dire, parce qu'il peut y avoir des insultes délicieuses.
À quelle insulte pensez-vous ?
À rien que je puisse dire à l'antenne. Mais il faut savoir insulter, c'est très important.
Oui, c'est sûr, hein, vous avez plus de matière dans l'univers, vous avez plus de matière non visible que de matière visible.
Ah bah c'est certain, oui.
Ah ouais, c'est impressionnant quand même.
Ah oui, oui.
Vous avez même des choses qu'on voit pas, qu'on appelle, c'est des espèces de trous noirs, hein, c'est de la matière d'une densité telle,
oui,
qu'elle a une force de gravité énorme,
oui, oui.
Énorme,
ah bah
énorme,
oui.
énorme,
et en même temps, je dis, rien n'est jamais grave, il y a des trous noirs, et puis on redémarre, et puis il faut jamais perdre courage.
Non, je vous parle pas de ça, je vous dis que dans l'univers, vous avez de la matière tellement dense, qui a une force de gravité tellement énorme qu'elle absorbe tout, même la lumière, elle est absorbée.
Alors, les mauvaises odeurs aussi,
pour
ça absorbe.
Oh mais non, je vous parle. Oh mais non, imaginez, bon, vous regardez le ciel,
oui,
vous voyez des étoiles. Bon bah il y a certaines étoiles, elles sont tellement loin de nous, qu'on sait qu'au moment où c'est que la lumière de l'étoile vous arrive dans l'œil, eh ben elle est éteinte. Ça vous embouche un coin, ça.
Ce n'est pas Jean-Claude Carrière quand il parle aux astrophysiciens Michel Cassé et Jean Audouze que vous entendez. Non, non, pas du tout. Ce sont les des chiens. Est-ce que ça ressemble un peu à vos conversations?
Un peu. En tout cas, c'est exact ce qu'ils disent.
C'est exact.
Michel Cassé.
Ouais, ouais. Totalement, oui.
Alors vous réunissez depuis des années pour parler de quoi, non, au fond,
je veux
Jean-Claude
dire,
Carrière?
C'est simplement au départ. Quand j'avais 40 ans et que je commençais à être un scénariste et un auteur, bon, tout à coup, je ne sais plus à quelle occasion, je crois, c'est une rencontre avec Hubert Reeves. Dans une émission de Michel Pollack qui s'appelait Droit de réponse, je me suis trouvé entre, c'était science et philosophie, et je me suis trouvé beaucoup plus d'accord avec ce que disaient les scientifiques que les philosophes. Et je me suis dit, mais est-ce que je ne suis pas en train de mourir idiot? Est-ce que la plus grande révolution de l'esprit au XXe siècle ne s'est pas passé dans le domaine scientifique, et pas artistique, pas littéraire? Et à partir de ce moment-là, Jean Audouze, qui dirigeait l'Institut d'astrophysique, et son ami Michel Cassé, de Saclay, m'ont pris, mais vraiment chez eux, un jour par semaine pendant 2 ans, et m'ont initié Moi, je ne savais pas la différence qu'il y avait entre, je sais pas, un électron et un neutron. Hein, c'est, je le sais toujours pas d'ailleurs. Mais enfin, si vous voulez que je vous l'explique, je peux.
Mauvais élève.
et je suis peu à peu rentré dans cet univers fascinant. Nous avons fait plusieurs livres ensemble avec Thibaut Dabo.
Le dernier est du nouveau dans l'invisible. Ouais. Et j'ai envie de vous dire, moi qui ne suis pas scientifique, je comprends pas tout. Mais je comprends beaucoup de choses de ce que vous dites. Est-ce qu'il y avait, Michel Cassé, une volonté de pédagogie dans l'écriture de ce livre à trois?
En fait, l'Institut d'astrophysique est le studio où s'écrivait le Big Bang, mais de manière telle que personne ne pouvait le dire. Et Jean-Claude a été la parole qui convoque, donc les mentalités qui cheminent et les technologies qui galopent, en fait. Et il nous a permis de partager la beauté du ciel.
Parce qu'il avait les mots que vous n'aviez pas ?
Plus que les mots. Il avait une sorte d'intelligence céleste, cosmique, nuageuse, sombre.
Une intelligence nuageuse, c'était...
Oui, je pense que c'est la mécanique
quantique. C'est assez joli, oui.
C'est la mécanique quantique, justement.
J'accepte ça.
Cette intelligence nuageuse, il l'a incarnée d'une certaine manière, parce que, pour tout vous dire, entre Jean Audouze et moi... Il y a quelquefois, non pas conflit, mais désaccord.
Ça se sent dans le livre. Et Carrière est là pour vous dire, bon messieurs, on arrête là aujourd'hui, on se retrouve plus tard.
Exactement. Donc l'unité s'est faite à travers Jean-Claude. Si vous voulez, en science, la polémique est avantageuse. Pas dans les rapports humains.
Pour qui? Pourquoi?
Parce que la science est l'exercice de la lucidité et du doute. Il faut se départir de ses préjugés. Si on pose Dieu, par exemple... Au début, au commencement. Et si l'on croit, alors on ne cherche pas. Maintenant, si Dieu apparaît à la fin, ben on tombe à genoux. Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Tout est ouvert. Il n'y a pas de présomption réaliste. Je veux dire, la réalité n'existe pas dans l'absolu. Ce qui existe absolument n'existe absolument pas.
Comment le scénariste...
Vous avez bien compris, là.
J'ai tout compris. Ouais. Comment le scénariste Jean-Claude Carrière entend ça ?
Alors, moi, je pose des questions.
Tout est ouvert, c'est formidable pour vous.
C'est surtout ce qui est très très frappant dans l'univers scientifique, contrairement à ce que nous pensons, c'est l'incertitude. On croit que c'est réservé à la musique, à la littérature, à la poésie, que la poésie est vague, elle est floue. Pas du tout. Quand Rumi, le grand poète persan...
Que vous avez traduit
avec un Al-Tajadar. ...se lance dans les espaces que seule la poésie peut atteindre, il parle de la prairie des anges. Eh bien, c'est là où ils sont.
Et la vallée c'est de la stupeur.
Et la vallée de la stupeur, oui, oui. Et c'est là où on se retrouve. On se retrouve très très facilement, non pas du tout dans des algorithmes ou dans des équations, je suis incapable d'y pénétrer, bien entendu, mais dans une façon... d'aborder la vieille antinomie entre certitude et incertitude d'une nouvelle manière.
Michel Cassé.
Oui, en fait, si vous voulez, le défi était le suivant, en cosmologie. Notre quête est la suivante. Le héros meurt à la première ligne, donc il n'y a pas de héros. Le narrateur est dans le coma. Donc, dans l'univers, la parole est à prendre. Et Courtois, avec la lumière, par exemple, on lui donne la parole en premier. Donc voilà comment on pourrait situer la scène originelle. Et c'est Jean-Claude qui raconte.
Il y a aussi une manière de dire ces choses-là de façon claire.
Vous parlez le cassé.
Je parle le cassé. Je comprends le cassé et j'arrive à le traduire.
Oui. Allez-y.
Il a dit une phrase magnifique un jour. L'atome du soleil parle à l'atome de notre œil le langage de la lumière. Partant de cette phrase-là, on peut aller très 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 loin.
Moi je trouve que vous parlez comme un poète, monsieur Cassé. Est-ce que la poésie fait partie de votre vie d'astrophysicien et de votre vie d'homme tout court?
Non, c'est ma maladie.
Ah oui?
Donc je suis atteint d'une maladie, d'une double maladie. Je suis dévoré par l'esprit de recherche. Je ne sais pas si on en souffre, peut-être pas.
C'est une maladie endémique. On en souffre si on trouve.
Si on trouve.
La Mais deuxième si on continue maladie, à chercher, non.
C'est la maladie des mots. Je suis né dans un département déficitaire, comme Jean-Claude.
Lequel?
Le Gers. Et, si vous voulez, ma grand-mère parlait patois.
La mienne aussi.
N'est-ce pas? Et c'est exactement ce qui nous manque. c'est-à-dire le terroir. Nous nous sommes évaporés, nous avons voltigé, un peu comme des papillons. Et d'une certaine manière, il serait bon que nous nous fixions, non pas définitivement, mais que nous lancions peut-être quelques racines sur la Terre. Et donc l'astrophysicien qui a été détaché par profession de la Terre demande avec insistance à un terrien, très évaporé par ailleurs. S'il était purement terrien, on ne s'entendrait pas.
Mais un vrai terrien.
Un vrai terrien.
Je suis, je crois, le seul scénariste français à pouvoir encore labourer avec un cheval. Et je l'ai fait il n'y a pas longtemps.
Formidable. Ouais. Et donc ma grand-mère parlait devant l'âtre, elle parlait pas toi, devant les étincelles. C'est ce qui a complètement motivé
ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'on arrive à parler, je ne dirais pas qu'on arrive à se comprendre, mais on arrive à se sentir. Un jour, Michel caressait son chat sur ses genoux. Je lui dis, il y a combien d'atomes dans la tête de ton chat? Et il me répond très naturellement, 10 puissance 27.
Facile.
Ce qui est bon. Pour lui, ça lui dit quelque chose. À moi, ça ne me dit rien. Et je lui dis, peux-tu me dire d'une autre manière? Il me dit, oui, je vais essayer. Prends une orange, qui est à peu près le volume de la tête du chat. Fais-en la terre tout entière de cette orange. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es capable de l'imaginer? Je lui ai dit, oui, je peux. Et maintenant, cette orange, tu l'as remplie de cerises. Et tu as à peu près le nombre d'atomes qu'il y a dans la tête de mon chat. Il m'a dit, mais c'est pas tout, attention. Maintenant, tu prends une cerise. Tu en fais la basilique de Saint-Pierre à Rome. À l'intérieur de la basilique, tu mets un grain de riz. Ce grain de riz, c'est le noyau de l'atome qui contient toutes les forces de l'univers. C'est-à-dire, quand on s'est parti comme ça, ça peut aller très loin.
Vous évoquez ça dans Du Nouveau dans l'Invisible, comme vous l'aviez fait il y a 30 ans dans Conversation sur l'Invisible, hein, c'était ça le titre. Vous parlez de l'univers et vous posez des questions, vous demandez comment il va l'univers à vos astrophysiciens amis, et vous répondez quand même, Michel Cassé, pas terrible. Hein.
Bon, un univers, ça va. Trois univers, bonjour les dégâts. Mais en réalité, il est peut-être temps de substituer au mot univers celui de plurivers, parce qu'il n'y a aucune raison que l'univers soit unique. Si vous voulez, nous sommes entraînés dans diverses révolutions qu'on dit coperniciennes. La Terre n'est pas au centre du système solaire, puisque c'est le Soleil qui occupe cette position. Le Soleil n'est pas au centre de la République des Soleils qu'on appelle la galaxie, puisque nous sommes sur un bord, un peu excentrique aussi d'ailleurs. Donc notre galaxie, partie prenante de l'univers qui n'a ni centre ni bord. Et donc, je pense que c'est un décentrage progressif qui suscite une douleur narcissique, d'une part, enfin, chez certains, mais une libération de l'esprit incommensurable chez d'autres. Donc, il y a des milliers de terres, il y a des milliards de galaxies, pourquoi y aurait-il qu'un univers?
Maintenant, on en est au plurivers, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une infinité d'univers.
Absolument.
Ce qui est, pour l'imagination, un défi, avant tout.
Mais surtout, l'altérité s'étend.
Ouais.
Je veux dire que c'est un gain pour la pensée, de dire qu'il existe un autre ou une autre. Parce qu'après tout, personne n'a jamais su discerner le sexe de l'univers.
Vous allez nous donner la réponse juste après avoir écouté Juliette Gréco. Vous nous l'avez dit, Jean-Claude Carrière, vous avez écrit pour cet astre de Saint-Germain-des-Prés. Vous avez écrit notamment « Un jour d'été ». Vous vous souvenez de cette chanson?
Oui, oui, oui.
J'ai rencontré un homme au bord de l'eau, un jour d'été. Il me demanda de faire un tour en bateau. Je refusais. Il avait une drôle de tête, un petit nez en trompette et des yeux bleus. Il vint s'asseoir près de moi sur la plage un jour d'été. Il me demanda de caresser son visage. Je refusais. Il avait un coup de soleil du ciel.
sable dans les oreilles.
Ah, les yeux bleus.
Il regarda longuement vers la mer un jour d'été. Puis il me dit, venez, je vous offre un verre. Je refusais. Il n'avait pas bonne mine, des doigts pleins de nicotine et des yeux. Je viens d'étrangler ma femme. Un jour d'été, accompagnez-moi sur les lieux du drame. Je refusais. Il avait un chapeau de paille autour du cou, une médaille et des yeux. Il me dit, vous pourriez me sauver la vie. Un jour d'été, venez nager avec moi, je vous prie. Je refusais. Il avait des mains nerveuses, une bague peu coûteuse et des yeux. C'est quelqu'un qui divague. Un jour d'été, il se leva et entra dans les vagues sans se retourner. Il disparut dans l'écume. Je ne vis plus son costume ni ses yeux.
Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Avec Juliette Gréco et Gérard Joannest.
Son mari qui est mort il n'y a pas longtemps.
Tous les trois, à Verderone, travaillant l'après-midi, c'est parmi les plus beaux souvenirs de ma vie.
Qu'est-ce qui était si beau?
D'abord, leur amour à tous les deux, l'amour de la musique, ce qui nous réunissait, je ne peux pas vous dire, c'est indéfinissable. Quelque chose qui est vraiment beau, on peut jamais dire pourquoi.
Vous réussissez à parler de l'univers, à parler de tout ce qui est invisible.
L'univers n'est pas beau.
Non, il n'est pas beau.
Forcément, ouais.
Il n'est pas beau. Mais en revanche, ce qui est beau n'est pas définissable.
Non, je ne crois pas.
C'est trop court, en fait.
Oui, c'est trop court, bien sûr. Le beau est une sensation. Ouais.
Le livre commence de cette manière, le livre du nouveau dans l'invisible, qui est sorti il y a un an et demi, deux ans, en 2017, chez Odile Jacob. Jean-Claude Carrière pose des questions parce qu'il vous pose plein de questions. Il continue à jouer ce candide qu'il aime jouer avec les astrophysiciens que vous êtes et qu'il est sans doute au départ.
Ce serait plutôt l'inverse.
Moins aujourd'hui. Il commence comme ça, Jean-Claude Carrière. Alors quoi de neuf? Et Michel Cassé répond, rien de neuf.
Rien. La lumière va toujours à la même vitesse. Donc rien de neuf sous le soleil. Mais parlant de lumière, Nal a fait valoir la notion de porteur de lumière.
Oui, c'est un livre que vous avez écrit, Nal Tadjatad.
Et donc la question est de savoir qui porte la lumière, ou quoi.
En tout cas, là, quand je parle des porteurs de lumière, ce sont les Nestoriens iraniens du 3e siècle. C'était les chrétiens iraniens qui s'appelaient les porteurs de lumière, parce qu'en Iran, la lumière est le principe pivot de toute théogonie. De Zoroastre, qui était un prophète iranien, jusqu'à l'islam chiite. La lumière et la pensée iranienne repose sur le thème de la lumière, dans la pensée soufie, chez les poètes, et encore aujourd'hui. Attique change porteur d'eau.
porteur de...
Alors, on est peut-être passé avec Attic de la lumière à l'eau.
C'est très intéressant.
Venez nous rejoindre, Attic Raïmi, vous êtes resté après tout, vous avez sans doute aussi des choses à dire, et sur la poésie, bien sûr, et sur la science. Vous les suivez, ces conversations qu'ils ont à trois, Michel Cassé, Jean Gouze et votre mari?
J'ai la chance inouïe de parfois entendre leur rire, beaucoup de rire et beaucoup d'engueulades. Alors, entre, évidemment, Michel et Jean, comme j'habite avec Jean-Claude, donc je lis beaucoup, évidemment, leurs livres. Depuis Conversations sur l'invisible, j'allais même écouter Michel dans ses conférences, et d'autant que il a comme référence beaucoup Sohrawardi, qui était un philosophe iranien. De temps en temps, peut-être, je le comprends mieux que les scientifiques.
L'univers dont vous parlez tous les trois, Jean Oudouze, Michel Cassé, Jean-Claude Carrière, il est dans un équilibre précaire. Vous êtes assez pessimiste sur son devenir. On a parlé de... D'ailleurs, on a parlé du sexe de l'univers. Quel est-il?
C'est le sexe des anges, quasiment. Non, en fait...
Pourquoi vous parlez de sexe à propos de l'univers?
C'est pour rigoler.
Ben nous, on prend tout très au sérieux.
Il existe des anges trisexuels, si on voulait continuer à rigoler, qu'on appelle les neutrinos. Vous êtes traversés à raison de 60 milliards par centimètre carré par seconde, et vous ne sentez rien, eux non plus. Et ils sont partis du centre du Soleil il y a 8 minutes et 2 secondes, et ils sont produits par les réactions nucléaires, thermonucléaires, donc par l'amour des protons avec les protons, et le cri de joie, c'est la lumière. Donc, ces anges traversent le Soleil comme s'ils n'existaient pas, et la nuit est du domaine des apparences parce qu'il traverse la Terre comme une boule de cristal, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de nuit.
Oui, ce qui est très frappant, et Nahal en parle très bien quand elle parle de la poésie iranienne, d'ailleurs la poésie est faite pour ça, c'est que ce qu'on ne voit pas est infiniment plus important que ce qu'on voit.
Ah oui, expliquez-nous ça, puisque le livre repose sur l'invisible.
Oui, oui, c'est-à-dire l'invisible qui nous entoure et que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, et même avec des appareils extrêmement sophistiqués, est infiniment plus complexe. Enfin, nous vivons, nous ne sommes rien, nous ne sommes pas grand-chose.
5% de la masse de l'univers. Ouais. Donc l'atome que l'on croyait la seule forme matérielle ne constitue que 5% de la masse de l'univers, tout le reste étant pris par ce qu'on appelle la matière noire, on devrait dire invisible. Parce que noir, c'est quelque chose qui absorbe. Mais il existe donc des entités qui sont absolument insensibles à la lumière. Donc elles sont transparentes. Il existe une matière transparente qui retient les étoiles, sinon elles se disperseraient et les galaxies n'existeraient pas. On appelle cela matière noire. Il existe une sorte d'explosif qu'on appelle énergie noire, qui est la force de l'envol. Donc, nous avons l'expérience de la chute parce que sans cesse nous tombons sous l'effet de l'attrait de la matière pour la matière. Donc, la matière attire la matière. Mais il existe une autre forme qui fait que l'univers, le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Donc, il résiste la force de l'envol qu'on appelle énergie noire. On l'appelle énergie noire, mais en fait, elle est totalement invisible. Et elle constitue 70% de la masse de l'univers.
Ça vous rend triste de ne pas voir tout, Jean-Claude Carrière?
Ah non, pas du tout. C'est la même chose d'ailleurs quand on écrit un scénario. Il reste dans le comportement humain, dans les décisions que nous prenons, dans les émotions que nous éprouvons, une immense part d'inconnu, heureusement.
C'est intéressant ce que vous dites sur l'écriture du scénario, parce qu'on n'écrit pas un scénario comme on écrit un livre ou comme on va dire un conte.
C'est une étape.
C'est une étape.
Un moment.
Il tend vers le film.
Oui,
il est un pré-film d'une certaine manière.
Il est fait pour devenir un film.
Voilà. Et en plus, le scénario n'est pas écrit de la même façon quand on travaille avec Buñuel qu'avec Tati.
Même si le film n'a pas abouti,
mais vous avez co-écrit avec lui ou avec Attic Raïmi.
Oui.
Vous devez vous adapter à ce qu'attend le cinéaste en devenir.
Naturellement, il faut que le metteur en scène sache comment il va tourner ce qui est écrit. Et s'il me demande, mais comment je fais ça? Ça n'a pas de sens.
Mais le travail de votre mari, Nahal Tajadot, c'est d'être psychologue, au fond?
Non, surtout pas.
Quand il parle de science, il est obligé de calmer de scientifiques. Quand il écrit pour des cinéastes, il fait attention à eux.
Ah oui, mais là, c'est concret. Mais vous me demandiez comment c'est d'être avec eux.
Oui.
Un jour, moi, j'étais à la maison, il y avait des dégâts des eaux, ma fille qui avait eu un accident, enfin, plein de problèmes, l'Iran, Trump, les sanctions, la guerre, l'Israël, et je descends, et Michel prend son parapluie, il dit « la réalité n'existe pas ».
Et il s'en va.
Et il vous rend plus légère.
Et moi, je suis allée l'embrasser.
Il se demande encore pourquoi.
Alors, quel cadeau, vous vous rendez compte, c'est ça, d'être avec eux.
On se retrouve tous ensemble juste après un nouveau titre d'Eddie de Pretto, Sensible.
Ah bah toi, t'es le plus beau, mais t'as jamais rien trop fait. C'est facile quand on vit pas grand chose et on ose effriter les trophées. Quand on est trop bien assis à juger les travaux finis, quand t'as tout dit t'as rien pris, mais tu parles tout comme si, puis tu prônes t'es au-dessus, que tout ça c'est de la rime à deux balles et demi-mots, que t'as même jamais l'utile. Qu'à continue de cracher, t'en auras presque plus. De ta salive, j'en ferai des glisses à perte de vue. Après ça, t'écriras quoi? Toujours tes problèmes à régler. T'étoufferas tes gros poids que t'essaies de faire porter, que t'essaies tout cacher de l'écran où t'envoies des PD, des TG sans même savoir l'orthographier. Je resterai insensible. Je resterai insensible. Face à tes cris sans moi, que t'écris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand ta voix. Il y a ceux qui proposent, il y a toi qui n'ose pas, qui reste dans son coin sans jamais faire de faux pas. Plus tu critiques, plus j'encaisse bien. J'aime savoir qu'il y en a qui ne mangent pas de mon pain. Plus j'ai déjà lu que je ne passerai même pas l'hiver, que j'étais qu'un pélire ou sans dents et dans la galère. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire de moi, car je serai encore bien là quand t'auras tout dit de toi. Car je pense qu'il va falloir t'y faire, car je pense avoir bien plus pour te plaire. Car j'aime te faire couler de l'encre à t'en faire chanter, l'air qui te trottera dans la tête jusqu'à dire que t'en es. Je resterai insensible, je resterai insensible face à tes cris sans moi, que t'écris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand t'aboies. Ça fait des blabla, des bien plus grands que toi. Ça fait un tabac qui se consume trop sans moi. Ça fait des blabla, juste du brouhaha qui je crois parle de moi, mais je ne m'y vois pas. Insensible, insensible. Je resterai insensible, insensible face à tes cris sans moi, que t'écris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand t'aboies.
Ouais.
Voilà le nouveau titre d'Eddie de Pretto, Sensible. Parlez-nous encore de votre femme, Jean-Claude Carrière.
De quel point de vue?
Sur tous les plans. vous choisissez, vous êtes libre, c'est votre grand atelier.
C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu de ma vie, sans aucun doute. Je le dis, elle est là, mais je le lui dis aussi quand nous sommes seuls. Mais ce qui m'étonne toujours chez elle, c'est le fait que elle ne sait pas lire un scénario et elle ne veut pas apprendre. C'est-à-dire que chacun pour soi, elle ne viendra jamais me faire la moindre remarque sur telle ou telle histoire, film que j'ai fait ou pas, ou livre.
Et vous êtes en attente?
On aimerait, mais en même temps, elle a parfaitement raison.
En fait, non seulement je peux pas lire les scénarios, mais je veux jamais jouer. Je veux pas être comédienne. Et il m'a, depuis le début, dit toujours, quelle chance que tu veux pas faire du cinéma, ni du théâtre. Et après, c'est un jeu entre nous, bien sûr. Mais même un jour, Atik voulait que je joue dans son film, Cinq de sa boule. Et j'ai tellement, c'était ma fierté de dire non, je veux jamais faire du cinéma. Mais en fait, j'ai raccroché, et puis je me suis dit, pourquoi pas? Mais il m'a pas prise.
Vos journées sont consacrées à quoi précisément? Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps dans votre vie, madame l'écrivaine, qui n'êtes pas qu'écrivaine?
Eh ben, la réalité qui n'existe pas, hélas.
Oui.
Et puis à part ça, j'essaie d'écrire, bien sûr. Et puis nous avons une fille qui a 16 ans, l'adolescence, les problèmes, l'école, le quotidien de toutes les femmes qui travaillent et qui ont une famille.
Vous avez quitté l'Iran il y a de longues années?
Je suis venue 2 ans avant la révolution, donc 77.
Oui.
Et j'étais dans un lycée français à Téhéran, qui s'appelait le lycée Razi, et j'ai eu mon bac en français déjà à Téhéran. Je suis venue faire des études de chinois, de langue et civilisation chinoise, à Paris, et j'y suis restée, voilà.
C'est fascinant de savoir que vous, qui venez d'un pays si riche à étudier, vous avez envie, en France, d'étudier le chinois.
Oui, parce que déjà, ma mère, dont on a parlé ici, Mahin Tajadod, elle était spécialiste des langues anciennes iraniennes, qui ne s'écrivent pas avec l'écriture arabe. Et moi, à la maison, je voyais que des écritures bizarroïdes, et j'ai voulu, pour l'université, être encore plus étrange que ma mère, encore plus excentrique. Donc, j'ai essayé le chinois, et vraiment, là, j'ai été happée par le chinois, parce que j'ai eu comme professeur François Cheng, qui aujourd'hui est un très grand, enfin, académicien, grand auteur, c'est mon maître à penser, disons, qui, dès le premier jour, m'a choisi. Et c'était une très belle, de très belles années d'études et surtout de découverte d'un monde dont on parlait peu à l'époque.
Si vous écrivez, c'est aussi parce que vous avez été l'élève, la disciple de François Cheng?
Bien sûr, François Cheng, avec ses livres, l'espace, ou la notion du vide, justement, dont parle
Michel Cassé.
Michel Cassé, et le dernier livre de Jean-Claude, La Vallée du Néant, ce vide qui, par exemple, dans le Tao Te Ching, le Lao Tzu, il dit, si une roue tourne, c'est par le vide.
Oui, mais en fait, il faut revenir à Démocrite qui disait, très justement, « Donnez-moi le vide et l'atome et tout le reste est commentaire. »
Traduisez, Jean-Claude Carrière. Je vous en supplie.
Juste un mot parce que c'est très clair. Donc le vide, c'est l'espace.
Voilà.
Et l'atome, c'est la matière. Donc la matière se meut parce qu'il y a de l'espace.
Oui, et c'est formidable de savoir que Lao Tzu l'a dit en Chine, ailleurs, il y a 3000 ans.
Trois mots qu'il ne faut pas confondre, mais qui sont importants, vide, rien et néant.
Absolument.
Et d'ailleurs, dans la pensée persanophone, il y a un grand poète qui dit à propos de rien, d'abord je lis en persan, « Hich agar soya pazirat manam homon soya hich ». C'est de Hakani, de XIIe siècle, qui dit « Si le rien portait une ombre, je serais l'ombre de ce rien.
Ah, ça, ça doit intéresser aussi Michel Cassé.
Certes.
Vous ne l'avez pas noté sur votre cahier?
Non, je l'ai noté très profondément.
Dit-il en touchant son cœur.
Oui.
Vous pratiquez 3 systèmes d'écriture, Nahal Tadjador, le farsi, le français, le chinois. Quand vous écrivez des romans, que vous publiez en France d'abord, vous écrivez en français?
J'écris directement en français parce que j'ai passé ma thèse de doctorat, j'ai fait des études très académiques et scientifiques sur l'apport des Iraniens pour la diffusion des religions non chinoises en Chine, que personne ne lisait. Et donc après, petit à petit, peut-être la proximité avec Jean-Claude, j'ai écrit des romans. Et directement d'écrire en français m'a peut-être donné beaucoup plus de liberté que si j'écrivais dans ma langue maternelle.
Quelle forme de liberté?
D'abord de rire.
Dans les sujets que vous abordez?
Oui, de sujets. Bien sûr, par exemple, en persan, je ne pourrais jamais écrire de gros mots. Ça vient de mon éducation. Je ne peux pas le dire.
Mais en français... Mais tu peux dire quand même que tu es un best-seller en Iran.
Ah oui, mais c'est parallèle.
Nous y étions ensemble il y a encore 2 semaines.
Il y a de la fierté là dans ce regard.
Oui.
Ah oui, vraiment.
C'est parce que je ne suis pas un best-seller en France.
Il y a des piles de ces livres dans les librairies qui dépassent les miennes.
Et vous dites c'est ma femme à tout le monde.
Oui, oui, oui.
Non, mais ce livre-là en particulier, c'est la biographie de Rumi,
le poète
mystique, que j'ai écrit d'abord en français, Rumi le Brûlé, pour présenter Rumi au lecteur français. Il a eu un petit succès en France, mais en Iran, la traduction, c'est vrai que depuis des années, c'est un best-seller. Et d'ailleurs, peut-être à nous trois, avec Atik et Jean-Claude, il va y avoir un film qui repose sur ce livre.
Pas peut-être.
Non, sûrement. Il va y avoir une adaptation cinématographique.
Et tout à l'heure, elle disait que non, elle ne lisait pas le scénario, qu'elle n'avait aucune idée de scénario. Mais justement, quand on travaillait sur ce scénario, elle avait des situations cinématographiques extraordinaires à nous proposer. Et puis oui, comme elle est...
Elle se lève la nuit pour aller lire en douce.
Vous les laissez exprès sur votre bureau. Donc le cinéma vous attire aussi.
Dans ce cas particulier, parce que quand même je connaissais pas mal le sujet, et donc avec Attic, on essayait de lui apporter des scènes qui reposaient vraiment sur la vie de Rumi, parce qu'on connaît très bien sa vie, il l'a écrit lui-même, son fils l'a écrit, ses élèves, ainsi de suite. Donc moi je connaissais, il y avait des situations formidables qu'il fallait, Attic connaissait, mais qu'il fallait présenter à Jean-Claude. Et là j'ai vu vraiment comment il travaillait, parce que il absorbe ce qu'on lui donne, c'est-à-dire des fois on lui donne une scène, on lui donne en ce qui concernait l'exemple précis avec Rumi, une chose qui s'était vraiment passée, et on était nous deux très fiers de lui raconter
Attic
cela.
Attic et vous, oui.
Attic et moi, et il ne bronchait pas, il ne montrait pas grand intérêt. Avec Attic, comme nous, on était très emballés, ça nous refroidissait, et on se disait bon ben alors comment on va essayer de lui imposer ça, parce que c'est une scène très importante. Et en 5 minutes, il sublimait la chose. Il en faisait une scène cinématographique. Il en faisait un drame. Il en faisait un film. On n'en revenait pas. Et je sais pas, parce que c'est mon mari. C'est,
voilà. Donner n'importe quel concept et on sort avec
c'est un alchimiste du verbe.
Michel Cassé.
Oui, alors, justement, revenons à Rumi. Rumi est un astrophysicien aussi. Parce qu'il dit, soleil, lève-toi. Les atomes dansent. Et c'est exactement ce que nous pratiquons.
C'est l'invention de cette expression que je trouve extraordinaire, le balai du néant.
Ma parole nourrit les anges. Tu as la nature de Dieu lorsque tu entres dans un cœur. L'éclat du tour du Sinaï, c'est par le cœur que tu le montres. Tu as la nature de lampe entrant la nuit dans la maison, et toute la maison s'éclaire de la lueur, de la lumière. Tu as la nature du vin. Toi, dans le groupe où tu te trouves, tu lances de ton beau visage 2000 élans et rébellions. Quand la joie s'est cabrée de peur, quand le désir s'est envolé, quelles fleurs pousseront et plantes de ton agréable arrosage? Quand le monde est dans la tristesse, quand elle est morte, la gaieté, toi, à partir de l'invisible, à quels autres mondes tu ouvres?
C'est fou comme ce poème nous réunit tous dans le grand atelier de Jean-Claude Carrière. On parle de monde, de santé, d'invisible, d'amour. On parle de vous, Jean-Claude Carrière.
Non, parce que je ne me considère pas vraiment comme un poète. Je ne sais pas du tout ce que je suis. Je suis un raconteur utilisant, parce que j'ai la chance, comme vous, d'être né, comme nous tous, dans le premier siècle qui est inventé de nouveaux langages. On l'oublie toujours.
Il n'y a pas que la littérature.
Oui, si nous étions à la fin du 19e, nous n'aurions que la littérature et le théâtre. Pensez à toutes les techniques qu'on a inventées depuis, et chacune d'elles a exigé un nouveau langage. C'est ce que c'était le plus difficile à faire comprendre. Oui. On n'écrit pas cinéma comme on écrit théâtre. Il faut connaître ce langage-là.
L'un des aspects positifs, si je puis dire, de vos conversations, Michel Cassé et Jean-Claude Carrière, c'est que vous nous dites tout va très vite, donc il va s'inventer plein de choses encore et encore dans les dizaines d'années qui viennent.
Oui, parce qu'on a abordé modestement la question de l'intelligence artificielle qui est en train de produire une révolution incommensurable.
Oui.
Mais en fait,
il ne s'agit pas
d'intelligence. Il ne s'agit pas non plus d'artifice. Il s'agit d'informatique avancée. Et donc, il est très dangereux de parler d'intelligence artificielle parce que on la déifie. On en fait une sorte d'entité abstraite qui pourrait nous dominer.
Ça veut dire que
je parle plus
l'intelligence
volontiers.
Doit rester humaine?
L'intelligence est humaine, elle n'est pas machinale.
Je parle plus volontiers de stupidité artificielle.
Oui, de bêtises naturelles.
Qui se développe tous les jours, on le voit très très bien, et on voit très bien comment faire.
On va écouter la musique du Retour de Martin Guerre. Voilà un film que vous avez écrit aussi
Michel
avec
Portal.
Michel Portal pour la musique.
J'aime énormément. Ouais.
Daniel Vigne était le réalisateur.
Thank you.
On va devoir se quitter, vous le savez, ça, Jean-Claude Carrière.
Allons bon,
c'est la fin de votre grand atelier, mais il reste encore plein de choses à dire. Vous avez plein de dîners et de déjeuners la semaine prochaine.
Oui, pas tellement, je crois.
Il y a Carole Bouquet, il y a Peter Brook.
Ah oui, c'est vrai.
Tiens, vous rappelez votre agenda.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qui vous reste à accomplir?
Qu'est-ce qui me reste à accomplir? Je ne sais pas. À laisser le meilleur souvenir possible.
Je peux ajouter, parce qu'il dit toujours qu'il veut transmettre. Et quand il travaille avec Attic, bon, je le dis devant Attic, il m'a dit j'ai trouvé la personne à qui transmettre, en parlant d'Attic.
Je vais pleurer.
Il va se cacher sous son bonnet.
Et puis, on a commencé l'émission justement pour demander à Jean-Claude de se définir, de parler de lui-même. Il dit non, je ne sais pas parler. En effet, comme dit l'autre, seuls les génies ne savent pas parler d'eux-mêmes.
Non.
Je voudrais qu'on se quitte avec quelqu'un peut-être qui a participé à cet humour que vous avez, Jean-Claude Carrière. C'est un ami à vous, il s'appelle Pierre Desproges. Et on va l'écouter parler de Dieu.
Ce matin-là, qui était le matin du septième jour, Dieu ne se sentit pas très bien. Il faut dire que les six premiers jours, il n'avait pas ménagé sa peine, créant coup sur coup la lumière, la terre, les mers, l'homme, les animaux, le ciel bleu, les étoiles jaunes. Enfin, tout ce putain de bordel de Dieu qui nous entoure et sans lequel nous n'aurions jamais pu connaître l'arthrite du genou et la bombe à neutrons. Et donc, le septième jour, Dieu se sentit mou et s'en fut consulter l'interne de garde à l'hôtel Dieu. « Comment allez-vous, mon Dieu ?» s'enquit le docteur. Et Dieu dit « Bof, comme un lundi. »« C'est fâcheux, dit le docteur, on est dimanche. »« Mais que ressentez-vous précisément, mon Dieu ?» Et Dieu dit « C'est difficile à dire. » J'ai l'impression d'être creux et sans contour, vous voyez ? Comme qui dirait ballonné, mais sans la baudruche autour du rien. J'ai l'impression de pas être là et de pas être ailleurs non plus. C'est, pour être clair, docteur, je crois que je n'existe pas.
Bah, il a tout compris. Vous avez beaucoup ri avec lui ?
Ah oui, beaucoup. On se voyait souvent, il habite à côté de chez moi et je suis un de ceux qui ont reçu le fameux télégramme à sa mort, vous savez. Pierre Desproges est mort d'un cancer. Étonnant, non?
Merci d'être venu, Naal Tadjatot. Qu'est-ce qu'on peut lire de vous qui est sorti récemment?
Les simples prétextes du bonheur chez Lattès.
Très bien. Atik Raïmi, je rappelle le titre de votre dernier livre. J'ai appris tout à l'heure à Jean-Claude Carrière que vous aviez écrit Les porteurs d'eau chez POL et puis Michel Cassé. Est-ce que vous avez écrit des poèmes?
Jamais.
Il faut vous y mettre.
Ou alors sous un nom d'emprunt.
Ah.
Oui. Ronsard.
en toute modestie. Mignonne, allons voir si l'arthrose.
Ouais.
Jean Audouze, Michel Cassé, Jean-Claude Carrière, du nouveau dans l'invisible.
Merci.
Valérie Ayestaraï a réalisé cette émission entourée de Karen Day et Perrine Malinge. Thierry Dupin a programmé la musique. Serge Viguier était à la technique. Vous pouvez retrouver le Grand Atelier sur franceinter.fr et le podcaster facilement. Venez aussi sur Facebook, vous abonner à la page consacrée au Grand Atelier, s'il vous plaît.